premier sur l'info, le journal présenté par Cédric Valax.
Bonjour Cédric, on commence par les titres que vous développerez aujourd'hui.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Nous consacrerons dans cette édition une large place à la justice, tout d'abord avec le procès en appel de l'affaire de l'atoll de Anuanularo qui fait son retour devant le tribunal. Gaston Flosse et Robert Van étaient présents ce matin à l'audience. L'homme d'affaires, vous l'entendrez, qui ne comprend pas ce qu'il fait là. Nous reviendrons également sur les peines confirmées ce matin par la cour d'appel de Papeete dans l'affaire de la Sept-Îles où Hiro Tefarere a été condamné. Au chapitre économie, la compagnie RTI Tinoui affiche un résultat excédentaire de 4 milliards de francs pour 2015. C'est ce qu'a annoncé hier la représentante Virginie Bruand à l'Assemblée. Cela conduira le pays à un prélèvement de dividendes de l'ordre d'1,5 milliard de francs. D'économie, il en sera également question en deuxième partie d'édition, mais cette fois d'économie bleue, avec 40 milliards de chiffre d'affaires en 2015. Elle ne représente pourtant que 7% de l'économie polynésienne, mais pourrait doubler dans les années à venir. Enfin, nous terminerons avec le grand jeu lancé aujourd'hui sur Facebook par Total Polynésie pour aider la saga. 100 francs pour un clic, à vos souris, on en parle en fin de journal.
Justice pour commencer avec l'affaire de l'atoll de Anuanularo qui fait son retour devant le tribunal.
À ce dossier, je vous le rappelle, porte sur les conditions de l'acquisition de l'atoll de Anuanularo par le pays, alors dirigé par Gaston Flosse. Un atoll acheté en 2002 au perliculteur Robert Van pour la somme de 850 millions de francs. Le 2 septembre 2014, le tribunal correctionnel de Papeete avait prononcé une relaxe générale dans cette affaire. Le tribunal avait jugé d'une part qu'à l'époque de l'achat, Robert Van faisait effectivement face à des difficultés financières et devait rapidement trouver la somme de 750 millions de francs. D'autre part, les juges avaient estimé que Gaston Flosse avait bien eu un rôle déterminant dans la décision d'achat de l'atoll par le pays. Mais pour autant, les juges avaient considéré que cette intention de Gaston Flosse constituait un mobile et non un élément constitutif du délit de détournement de fonds publics. Le parquet a souhaité faire appel de cette décision uniquement pour les deux principaux prévenus du dossier, Gaston Flosse et Robert Van. Robert Van que nous avons interrogé ce matin, certes, il était ami avec Gaston Flosse, mais il ne comprend pas pourquoi la vente de ce terrain lui vaut aujourd'hui d'être à nouveau devant la justice.
Il n'est pas ami avec Gaston Flosse. Alors c'est à cause de ça, mais ça n'a rien à voir. Le bien a un prix, on a fait l'expertise, tout ça. Je me demande où est la justice. Et on n'a plus le droit. Quand on vend un terrain, c'est devenu un délit. Je ne comprends plus rien. Alors je me défends, bien sûr, mais je ne sais pas.
Vous doutez la décision de la cour d'appel?
Je ne sais pas, c'est à eux de décider. Je ne sais pas, j'attends.
Voilà, ce procès en appel était prévu sur 2 jours, mais ce matin, le juge a annoncé vouloir aller vite et traiter le dossier dans la journée.
Justice toujours avec des peines confirmées dans l'affaire de la Sept-Îles.
Oui, la cour d'appel a suivi les réquisitions de l'avocat général dans ce dossier jugé en mars dernier et dont les faits remontent à 2008. Dans cette affaire, la justice reproche à Hiro Tefarere d'avoir tenté de verser un règlement transactionnel de 50 millions de francs à la société de duty-free Casimir. C'était en 2008. Ceci alors qu'il était le président du conseil d'administration de la Sept-Îles, la société gestionnaire de l'aéroport. Une dépense injustifiée qu'il avait engagée sans même avoir consulté son conseil d'administration. En effet, la société Casimir était à l'époque en contentieux civil avec la Sept-Îles, mais n'avait que peu de chances de remporter son procès. C'est le service d'État de l'aviation civile qui avait bloqué la transaction et déposé plainte à l'époque. Ce matin, dans son délibéré, la cour d'appel a donc suivi les réquisitions de l'avocat général en prononçant une peine de 2 ans de prison avec sursis, 3 ans de mise à l'épreuve, avec obligation de remboursement et 1 million de francs d'amende à l'encontre d'Hiro Tefarere. La gérante de la société Casimir, Mareva Marchesini, a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et 700 000 francs d'amende. Également condamnée en tant que personne morale, la société Casimir a écopé 1 million de francs d'amende.
Économie maintenant avec RTI Tinoui qui plane sur un nuage à 4 milliards de francs.
Oui, hier, les représentants à l'Assemblée étaient réunis pour la 6e séance de la session administrative. Notamment à l'ordre du jour, ils avaient à examiner un projet de délibération approuvant le compte administratif de la Polynésie française et constatant la concordance des résultats avec le compte de gestion pour l'exercice 2015 du budget général. C'est lors de cette présentation que la représentante RMA, Virginie Bruand, s'est félicitée d'une hausse de plus de 5 milliards de francs des recettes de fonctionnement. L'élu de la majorité l'a expliqué par une progression des droits à l'importation, une progression de la TVA, mais aussi par, je cite, une augmentation significative des recettes non fiscales liées à la politique de distribution des dividendes des entités publiques. Cela concerne l'OPT, le port autonome, la banque Socredo, mais aussi pour la première fois RTI Tinoui. Selon Virginie Bruand, la compagnie Autiaré devrait dégager près de 4 milliards de francs de résultats excédentaires. Cela conduira le pays à un prélèvement paiement de dividendes de l'ordre d'1,5 milliard de francs. Un juste retour des choses pour l'élu qui a rappelé que le pays avait largement contribué à faire redécoller la compagnie aérienne qui était proche de la cessation de paiement il y a 4 ans.
On reprend en parlant d'économie bleue, une économie qui peut encore largement progresser au Fénois.
Oui, réunis au sein du CEROM, l'Agence française de développement, l'Institut des missions d'outre-mer et l'Institut de la statistique de la Polynésie française organisaient hier matin une conférence sur le sujet. En ouverture, l'ISPF a dressé un état des lieux. L'Institut s'est penché sur le transport maritime, la construction et la réparation de navires, la construction d'ouvrages maritimes, les activités portuaires, l'aquaculture et la pêche. Et c'est quelques chiffres pour vous faire une idée. En 2015, le chiffre d'affaires déclaré de l'économie bleue était de 40 milliards de francs, principalement engendré par les transports maritimes et l'activité portuaire. Ce chiffre d'affaires représente une augmentation de 8% par rapport à 2014, démontrant le dynamisme de ce pan de notre économie qui emploie 4 900 personnes. Pour autant, l'économie bleue ne représente que 7% de l'économie polynésienne. Pour le directeur de l'ISPF, Fabien Breuil, ce chiffre est bien en dessous des capacités maritimes du pays et pourrait facilement atteindre 15% dans les prochaines années.
Mais aujourd'hui, 7%, donc c'est un poids qui est modéré, c'est modeste. C'est un secteur qui est en croissance dans la période récente, porté par les infrastructures maritimes. La pêche et la perle, ça représente moins de 2%, donc il semble qu'effectivement, il y a des gros axes de développement apportés pour soutenir l'économie polynésienne. Alors, nous, Institut, on n'a pas de piste. On est capable de dire que aujourd'hui, ça représente 7%. Si on regarde ce qui se passe, par exemple, au Fidji ou ailleurs, on pourrait atteindre facilement 10-15%.
Parmi les petits poussés de l'économie bleue, on retrouve la pêche. Le gouvernement travaille actuellement sur la réalisation d'un schéma directeur de la pêche hauturière sur les 10 prochaines années, qui devrait voir le jour en décembre prochain. L'objectif est d'accompagner les professionnels de la pêche dans l'augmentation de la flottille polynésienne. Cela se traduira par des mesures d'incitation à l'investissement local sur les 2 prochaines années et un dispositif de défiscalisation renforcé. Le pays compte également sur le label de pêche durable MSC pour se positionner à l'exportation. C'est ce que nous explique le ministre de l'économie bleue, Tevar Ofrich.
L'objectif que nous avons, c'est de décrocher à la fois le label MSC, qui est un label de pêche éco-durable, donc qui va limiter certainement notre flottille globale à 75 bateaux, nous sommes à une soixantaine aujourd'hui, pour pouvoir, on va dire, atteindre un certain nombre de marchés qui ne sont pas accessibles aujourd'hui. Une chaîne, par exemple, comme Marks & Spencer, en Europe, ne prend que du thon éco-labellisé. Ils sont prêts à le payer plus cher. Et donc, je crois que c'est une des clés, effectivement, compte tenu de la faiblesse des quantités pêchées en Polynésie. Parce que si on pêche aujourd'hui 6 000 tonnes, l'objectif étant d'atteindre 12 000 ou 13 000 tonnes, il faut savoir qu'on pêche près de 3 millions de tonnes de poissons dans le Pacifique. Donc on est tout petit. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que l'on pêche nous-mêmes ces poissons, que la valeur ajoutée soit en Polynésie. Et si on peut tirer parti de cette éco-certification pour avoir un prix avantageux, eh bien banco, on aura gagné. Donc c'est toute l'ambition que nous avons pour le développement de cette pêche.
Un sujet de Valentine Bluet.
On poursuit avec cette initiative de Total Polynésie pour venir en aide à la saga.
Total, partenaire historique de la saga, puisque là, ça fait 22 ans que le pétrolier soutient financièrement l'initiative de Doudou Cornette de Saint-Cyr. En 2014 et 2015, la compagnie avait modernisé son action en lançant un concept qui consistait à demander à ses clients de reverser l'arrondi de ce qu'ils payaient dans une urne. Résultat, plus d'un million de francs ont été reversés à la saga. Mais cette année, nouvelle formule, Total Polynésie innove. C'est ce que nous explique Pierre-Alexandre Vigile, le directeur général de Total Polynésie.
Cette année, on a voulu lancer une formule plus innovante en utilisant notre page Facebook qu'on a créée en début d'année afin de relayer le message d'aide à la saga auprès d'une population plus jeune.
Concrètement, comment ça va se passer pour l'internaute qui va aller sur votre page? Qu'est-ce qu'il doit faire?
Alors, en fait, c'est très simple. Il va aller sur notre page, Total PF, et il va trouver une photo, une image représentant l'opération J'aide la saga avec un clic. Il va renvoyer cette photo à un ami, et en renvoyant cette photo à un ami, ce lien à un ami, Total Polynésie va donner 100 francs à la saga. À chaque renvoi, Total Polynésie donnera 100 francs à la saga.
Vous l'avez compris, en cliquant « J'aime » la page Total Polynésie et en partageant sa publication, ce sont 100 francs qui seront donc reversés à la saga. Ça ne vous coûte rien et ça peut rapporter gros à la saga. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.
On termine avec Michel Bourrez en difficulté ce matin lors de la Fidji Pro.
Oui, nous vous en parlions ce matin. Notre champion s'est qualifié hier pour la quatrième manche de la Fidji Pro après avoir battu le jeune américain Kanoa Igarashi. Une quatrième manche qui s'est surfée ce matin sur le spot de Tavarua. Mais le niveau était très relevé face à Michel Bourrez, le brésilien Gabriel Medina, champion du monde en 2014, et le hawaïen Dusty Payne. Medina a survolé les débats en surfant la vague parfaite et Michel Bourrez a terminé sa série en dernière position. Il devra donc passer par les repêchages s'il veut espérer une place en quart de finale. Il y sera opposé au brésilien Wigoli Dantas et ça devrait se jouer dans quelques minutes, 32 minutes exactement. C'est en direct à suivre sur internet.
Retrouvez l'info en continu
Radio 1.
Sur radio1.pf.